Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Belinda Bosuma.
À la une, le secrétaire général adjoint aux opérations de paix de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, attendu ce mardi à Bounia. Cette visite s'effectue dans un contexte particulier où les groupes armés ont intensifié les attaques contre la population. La fièvre typhoïde fait rage à Popokabaka dans le Kwango. En moins de deux mois, soit de janvier à ce jour, on compte plus de 1400 cas enregistrés et deux décès. La zone de santé de Popokabaka manque des moyens adéquats pour prendre en charge des malades, indiquent les autorités sanitaires du Kwango. Et puis, l'invité de ce midi, Tsongo Makelele, directeur de la prison centrale Kangbayi de Beni, il va nous parler de certains projets réalisés par la MONUSCO depuis juin 2021 dans le cadre de l'amélioration de la sécurité de la prison centrale Kangbayi et surtout des conditions de vie des détenus. Madame, Messieurs, bonjour. Le secrétaire général adjoint aux opérations de paix de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, arrive ce mardi à Bounia. Une délégation du gouvernement de la RDC conduite par le ministre de la Défense est attendue sur place pour son accueil. Cette haute personnalité de l'ONU arrive en Ituri dans un contexte où les groupes armés ont multiplié les exactions contre la population. Reportage de Isaac Remoyope, rendu par Jean-Claude Loki.
Le décor est planté à l'aéroport de Bounia pour accueillir le patron des opérations de maintien de la paix, le vice-gouverneur et les membres du comité provincial de sécurité ainsi que le leadership de la MONUSCO ont déjà fait le déplacement à l'aéroport. Aussitôt arrivé, Jean-Pierre Lacroix va échanger avec le vice-gouverneur et les représentants des communautés locales. Il va ensuite se rendre au site déplacé d'Héro qui abrite plus de 60 000 personnes qui ont fui les actions des miliciens de la Côte d'Ivoire en territoire de Djougou. Sur place, il va s'entretenir avec le comité des déplacés et les autorités coutumières. Cette visite s'est dans un contexte particulier où les groupes armés, dont ADF, FPIC, CODECO, ont intensifié les attaques contre la population. Selon la société civile, plus de 150 personnes sont tuées en l'espace de 3 semaines. Bounia, Jean-Claude Lokidile, Radio Kapi.
Restons en Ituri. 18 présumés criminels, dont 2 miliciens de la FPIC, arrêtés par les forces de l'ordre et 5 armes de guerre récupérées. C'était lors des opérations d'investigation de la police dans la ville de Bounia et aussi lors des combats entre l'armée et la milice FPIC à la périphérie de la ville. Selon la PNC, cette action vise à sécuriser la population de Bounia contre les menaces d'attaque de ces hommes armés, mais aussi à lutter contre le banditisme urbain. Isaac Remoyope, reportage.
Parmi ces malfrats, il y a 6 bandits armés qui sèment la terreur. Ils ont été appréhendés pendant les patrouilles de la police avec plusieurs biens volés dans des habitations. Selon la police, ils détenaient 4 armes et des munitions qui ont été récupérées par les patrouilleurs. L'armée a également arrêté 2 miliciens de la FPIC avec une arme et des munitions. C'était lors des combats dimanche entre les FADC et cette milice au village de Nderemi, à une dizaine de kilomètres de Bounia dans le territoire d'Iromo. Toutes ces personnes sont poursuivies pour participation à un mouvement insurrectionnel et vol à main armée. Elles seront transférées à la juridiction compétente pour l'inscription de leur dossier, affirmé des sources de la police, signalant que la population de Bounia vit dans une psychose à cause de l'insécurité due à la présence des hommes armés au chef-lieu de la province et à la périphérie où les opérations militaires contre les groupes armés sont en cours. Bounia, Jean-Claude Loki Dile, Radio Kapi.
Dans l'actualité aujourd'hui, aussi la 10e réunion des chefs d'État et chefs de gouvernement des pays signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba. Les travaux sont prévus pour jeudi, mais aujourd'hui, les ministres des Affaires étrangères ou leurs délégués viennent de commencer la réunion préparatoire des jeudis à Kinshasa. Retrouvons sur place Donna Madimba Mbaya depuis l'hôtel du gouvernement.
Exactement, l'actuelle réunion des ministres des Affaires étrangères a commencé depuis au moins 2 heures. Des mots d'accueil et des circonstances sont terminés. On en est rendu à présent à la réunion à huis clos entre les parties prenantes. L'envoyé spécial de l'ONU pour les Grands Lacs et le ministre congolais de la coopération régionale qui se sont exprimés en introduction se réjouissent de la tenue des préparatifs de ce mardi et de la réunion des présidents prévue jeudi. Pour le ministre de la coopération régionale de la RDC, son pays se réjouit également à ce stade des avancées obtenues dans la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba qui totalise 9 ans cette année, des avancées comme le renforcement de la RDC, de la lutte contre les groupes armés sur son territoire et la volonté affichée d'engager et d'encourager les projets de développement en faveur des populations. Les travaux se poursuivent donc et devraient, selon le programme publié, se clôturer avant la soirée. Depuis l'hôtel du gouvernement à Kinshasa, Donna Madimba, Radio Kapi.
Merci Donna. Justement, en rapport avec cette réunion prévue jeudi, au Nord Kivu, la coordination provinciale de la société civile demande aux autorités congolaises de réévaluer l'accord cadre d'Addis Abeba au regard des défis sécuritaires qui secouent encore l'est de la RDC. Ce sont notamment les incursions récurrentes des rebelles du M23 et des armées régulières qui insécurisent les populations congolaises dans les territoires de Rutshuru, Beni et Masisi en provenance des pays voisins. La société civile exige qu'au cours de cette rencontre des chefs d'État de la CIA prévu à Kinshasa, que la RDC exprime son ras-le-bol devant ses voisins sur les actes de violation flagrante de cet accord dont elle est souvent victime ou qu'elle décide carrément de se retirer de la CIRGL. Le responsable de la thématique bonne gouvernance au sein de la société civile du Nord Kivu, Étienne Kambale, explique au micro de Gabriel Ouamenia.
9 ans après l'accord, la population devrait bénéficier des dividendes de ses engagements. Entre autres, ne pas assister un groupe armé déstabiliser un autre État. Nous voyons que les M23 bénéficient l'appui tacite des Rwanda et de l'Ouganda. Les indicateurs qui montrent que cet accord a contribué à ramener la paix, on ne devrait plus voir les M23. Comment les M23 surgit? Ils se retrouvent dans des positions qu'on ne les pensait pas. C'est lui qui gère aujourd'hui la commission des mobilisation. Il est issu du M23. Et comment se fait-il, même s'il est là-bas, pourquoi il ne veut pas mettre les armes par terre? Du fait que c'est un outil des États de la région pour mettre à genoux nos institutions. Et comme nos institutions ne peuvent pas le dire, nous, au nom de la population du Nord Kivu, nous alertons nos autorités de taper sur la table. C'est inacceptable. Tous les accords qui sont en train d'être signés sont faits au nom de la population. Et nous, la population, nous mandate de le dire du fait que cet accord constitue pour nous un outil. L'indicateur nous montrera où est-ce qu'ils ont avancé, où est-ce qu'ils n'ont pas avancé.
Parlons santé à présent. Hausse des cas de fièvre typhoïde dans la province du Kwango, précisément dans la zone de santé de Popokabaka. Déjà plus de 1400 cas sont enregistrés depuis le début de l'année en cours. Plusieurs complications et 2 décès sont aussi signalés durant la même période. Docteur François Mwakisenda, épidémiologiste à la division provinciale de la santé du Kwango, qui le dit à la presse, fait savoir que la zone de santé manque des moyens adéquats pour prendre en charge ces malades. Il appelle la population à respecter les règles d'hygiène pour éviter cette maladie de main sale. Le point avec Irène Boma.
Dans un entretien, le docteur François Mwakisenda a indiqué que la zone de santé de Popokabaka a déjà enregistré plus de 1458 cas de fièvre typhoïde depuis le début de l'année en cours. D'après ces médecins épidémiologistes de la division provinciale de la santé du Kwango, il y a eu aussi des complications dont les perforations intestinales et des décès. Presque toutes les tranches d'âge sont concernées et cela dans presque toutes les aires de santé, a-t-il déclaré. Et d'ajouter que plusieurs difficultés sont rencontrées dans la prise en charge de cette flambée des cas.
Les difficultés sont énormes. La nuit passée, la zone avait connu aussi une flambée, mais il y a eu une intervention des Médecins sans frontières. Ils avaient amené quelques kits de prise en charge. Après ça, il n'y a aucun partenaire qui s'est présenté pour appuyer la zone. En ce qui concerne la prise en charge, ils sont limités.
Docteur François Mwakisenda n'a pas manqué à sensibiliser la population sur la prévention de cette maladie dite des mains sales.
La fièvre typhoïde, c'est parmi les maladies des mains sales où il fallait les respects de l'hygiène des mains et puis l'hygiène alimentaire et l'eau de boisson. Donc c'est fait que la zone est en train de faire ce plus la sensibilisation.
Signalons qu'à part cette flambée des cas de fièvre typhoïde, la zone de santé de Popokabaka est aussi touchée par la rougeole, a dit la même source. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Par ailleurs, dans la province de Lomami, l'épidémie de rougeole refait surface dans la zone de santé de Luputa, territoire de Lwilou. D'après le chef de division provinciale de la santé, 11 enfants de moins de 5 ans sont affectés. D'après les résultats des échantillons prélevés et examinés au laboratoire de l'Institut national de recherche biomédicale, INERBE, et plus de 100 autres enfants de moins de 5 ans présentent des symptômes de rougeole depuis quelques jours. Docteur Fred Boulobo lit la résurgence de cette épidémie à la non-vaccination d'un bon nombre d'enfants. Autre cause, la malnutrition. Docteur Fred Boulobo, chef de division provinciale de la santé de Olomami, au téléphone de Esther Dalafina.
Pour les cas, un grand nombre de ces enfants n'ont pas été vaccinés. Pour des raisons ou pour d'autres, et pratiquement les parents, malgré toutes les sensibilisations qui sont faites, n'ont pas pu amener leurs enfants aux séances de vaccination. Mais nous avons aussi des enfants qui ont été bien vaccinés, mais qui font carrément une rougeole que nous disons atténuée, c'est-à-dire une rougeole qui ne va pas tellement amener jusqu'à la mort, mais qui peut facilement être gérée. Nous avons renforcé un système de surveillance épidémiologique, c'est-à-dire rechercher activement tous les cas suspects de rougeole au niveau de la zone de santé, que ce soit dans la communauté, plus particulièrement chez les tradis praticiens, au niveau des églises et toutes les autres formations sanitaires, de sorte à reconnaître et identifier tous ces enfants. En deuxième lieu, c'est le renforcement de la vaccination de routine et avec communication et sensibilisation des parents, de sorte qu'ils amènent leurs enfants, qu'on puisse les vacciner davantage. Et nous avons leur prise en charge pour ceux qui sont déjà malades atteints de rougeole. On est en train de les soigner pour pouvoir limiter la mortalité. Les médicaments sont disponibles dans les formations sanitaires. Nous allons lancer déjà un appel à nos partenaires traditionnels pour que nous puissions avoir un appui supplémentaire.
Docteur Fred Boulobo est le chef de division provinciale de la santé de la province de Lomami. Entre-temps, dans la province du Maniema, le centre hospitalier Lumbulumbu vient de créer à Kindu une unité de prise en charge des enfants drépanocytaires, communément appelée SS. La nouvelle a été rendue publique hier par le médecin directeur intérimaire de ce centre. Docteur Antoine Lufimbo invite les concernés à se faire enregistrer pour bénéficier de ce service. L'unique condition est d'être un enfant drépanocytaire de moins de 10 ans. Docteur Antoine Lufimbo au micro de Florence Kizalunga.
Le but de cette unité spécialisée, c'est dans le suivi et la prise en charge des enfants atteints de l'anémie SS. Et lorsque le suivi est régulier, ça a comme conséquence positive la diminution sensible des complications que cette maladie s'accompagne. En organisant cette unité, nous nous attendons à ce que nous puissions fédérer autour de nous beaucoup de parents et les enfants drépanocytaires. Nous attendons à ce que ces enfants puissent répondre à tous les rendez-vous qui seront établis, chacun selon son état clinique. Et nous nous attendons au finish à voir les enfants drépanocytaires de Kindu présenter moins de complications, qu'ils aient moins de transfusions, qu'ils aient moins de séjours en hospitalisation et que leur succès scolaire ou académique soit au rendez-vous.
Pendant ce temps, une crise alimentaire s'observe dans le territoire de Malembankulu dans la province de Olomami. Cette situation conduit au cas de malnutrition chez les enfants, les champs ayant été détruits par les éléphants et les fortes pluies. La population locale sollicite une assistance humanitaire. Jean Gandou nous fait le point.
Pour le chef de service humanitaire dans le chef-lieu du territoire de Malembankulu, cette situation est causée par le fait que plusieurs ménages ont perdu leurs champs. Pour les uns, les champs de maïs ont été dévastés par les éléphants en divagation. Pour les autres, des grandes étendues de champs de manioc ont été inondées. Du coup, la population se trouve confrontée au problème de manque de nourriture, surtout que le maïs et le manioc constituent l'aliment de base pour les habitants de ce territoire. D'après la même source, pour le moment, c'est le territoire des Congolos dans le Tanganyika qui alimente Malembankulu. Le sac de manioc qui coûtait 65 000 francs congolais se négocie actuellement à 120 000 francs congolais. Un seau de maïs de 2,5 kg est passé de 2 500 à 4 500 voire 5 000 francs congolais, ce qui n'est pas à la portée de toutes les bourses. Et de nombreux enfants souffrent déjà de la malnutrition. Confucius Inabanzakabang rappelle que ceux qui ont perdu leur champ sont estimés à plus de 82 000 personnes. Confirmation de Paul Senga, député provincial élu du territoire de Malembankulu.
La Malembankulu, l'entité la plus touchée, la population vit dans une situation précaire. La baisse des produits dans la zone s'observe depuis quelque temps. L'aide humanitaire s'avère urgente.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Direction le Sud Kivu. Une hausse incohérente du prix de l'essence est constatée depuis quelques jours à la pompe. Cette situation est consécutive à une pénurie de carburant, particulièrement l'essence dans la ville de Bukavu. Cela à cause d'une baisse de production dans les pays producteurs, disent certains pétroliers contactés. Le point avec Cynthia Bachizi.
L'essence devient rare à la pompe dans la ville de Bukavu. Et là où les automobilistes peuvent encore le trouver, il se négocie entre 2500 francs et 2900 francs congolais, voire 3000 francs congolais le litre chez le petit revendeur, dit Kadhafi. C'est ainsi que certains tenanciers des stations-service ont décidé de ne vendre qu'à leurs abonnés ou à des clients privilégiés. Tinja Tihubagala, président du club des pétroliers du Sud Kivu, dénonce cette hausse désordonnée du prix de l'essence. Il invite les membres affiliés à cette corporation à respecter la structure de prix officiel, soit 2450 francs congolais par litre. Bukavu est ravitaillé en carburant principalement par le Rwanda et la Tanzanie, mais ces pays connaissent également une rareté de l'essence du fait de la pénurie à l'échelle internationale. Tchinja Tshihubagala espère un retour à la normale d'ici la semaine prochaine. Pendant ce temps, cette situation a des répercussions sur les prix de course dans les transports en commun. Là aussi, des usagers se plaignent d'une hausse selon le bon vouloir du chauffeur. Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au moins 59 personnes mortes hier dans l'explosion d'un stock de dynamite sur un site d'orpaillage situé dans la région sud-ouest du Burkina Faso. Selon une source hospitalière, le bilan pourrait s'alourdir puisque des blessés se trouvent toujours dans un état critique. L'accident s'est produit hier après-midi sur le site d'orpaillage de Gomgombiro. L'engagement français au Sahel est en discussion ce mardi à l'Assemblée nationale de la France. Le gouvernement français fera une déclaration sur le sujet, puis les différents groupes s'exprimeront. Un débat sans conséquence, puisqu'Emmanuel Macron a déjà décidé de retirer les troupes françaises du Mali. Si pour tous les candidats à la présidentielle, ce départ des soldats tricolores était inévitable, il critique cependant la stratégie du chef de l'État.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons le directeur de la prison centrale de Kangbayi de Beni dans le Nord Kivu. Tsongo Makelele va nous parler de certains projets réalisés par la MONUSCO depuis juin 2021 dans le cadre de l'amélioration de la sécurité de cette maison carcérale, mais aussi des conditions de vie des détenus. Tsongo Makelele s'entretient avec Marc Marofimbo.
Monsieur le directeur Tsongo Makelele, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste.
La MONUSCO, à travers son unité d'appui à l'administration pénitentiaire, a exécuté certains projets d'importance capitale pour l'amélioration de la vie des détenus dans la prison centrale Kangbayi de Beni. Peut-on en avoir une idée générale?
Oui, effectivement, la prison de Beni a été bénéficiaire de plusieurs projets de la MONUSCO. Et le premier aspect, c'était dans l'amélioration des conditions carcérales des détenus. Il y a des toilettes qui ont été réhabilitées, qui ont été débouchées par la MONUSCO. Donc la MONUSCO a changé le système de toilettes. C'est vraiment un appui parce que c'était catastrophe. Imaginez une population de 900 personnes sur 3 toilettes, mais aujourd'hui, grâce à la MONUSCO, les toilettes sont réhabilitées. Au niveau même de l'alimentation, vous avez même constaté avec nous que les jardins et le chat de Kangwai est maintenant exploité. Nous avons même commencé à produire. Parce que la semaine passée, nous avons récolté des maïs que nous avons mis à la disposition des détenus dans le sens d'améliorer leur alimentation. Dans toutes ces activités, nous avons utilisé 45 détenus. Parce que nous avons, il y a ceux qui font les champs, ceux qui sont au moulin et ceux-là qui font le travail au niveau du poulailler à la prison des femmes. Et même à l'entrée de la prison, vous allez constater qu'il y a déjà une petite maisonnette qui est installée là. C'était toujours grâce à la MONUSCO. Nous avons déjà un moulin opérationnel et c'est toujours dans le sens d'améliorer les conditions des détenus. Et au niveau de la prison pour femmes, il y a déjà un poulailler qui est opérationnel. Bientôt, nous allons mettre à la disposition de la population une grande quantité de poules. C'est ça dans le sens général que nous avons réalisé, la MONUSCO a réalisé au niveau de la prison de Beni.
Les partenaires au gouvernement dans ces domaines sont à pied d'œuvre avec tous ces projets dont vous venez d'énumérer. Est-ce suffisant? Qu'est-ce qu'il faut encore faire pour une amélioration nette de la vie des détenus?
Bon, comme je suis en train de vous dire que nous devons exploiter à part ce que nous recevons du gouvernement central, mais nous-mêmes, nous devons produire. Je vous ai dit que nous avons déjà commencé à récolter le maïs et d'ici là, nous allons mettre à la disposition de la population des poules. C'est toujours dans le sens d'améliorer les conditions des détenus. Et dans l'aspect sécuritaire, vous allez constater avec moi, il y a déjà une clôture qui est érigée sur toute l'étendue de la construction de la prison. C'est toujours la MONUSCO qui a fait cette activité. C'est dans ce sens que vraiment nous remercions tout ce que MONUSCO a fait au niveau de la prison de Beni pour améliorer la condition des détenus et même l'aspect sécuritaire.
Et monsieur le directeur, s'il faut penser à un autre projet très utile pour l'amélioration de la vie des détenus pendant leur temps ici dans la maison carcérale et même après quand ils seront à nouveau dans la société, lequel serait vraiment prioritaire?
Bon, en fait, nous sommes en train de réfléchir parce que les détenus qui sont là-bas, ils doivent aussi apprendre quelque chose. Alors nous sommes en train de concevoir un projet de ménagerie si on peut sélectionner certains détenus et qui pourront être formés à Ménisserie et au sortir de la prison, ils pourront même continuer à exécuter ces activités même quand ils seront à liberté. C'est ce qu'on parle de la réinsertion des détenus.
Et pour le cas précis de la prison centrale de Kangwaï, il y a aussi un problème de surpopulation carcérale, alors que depuis un certain temps, un mécanisme a été mis en place de désengorgement de cette maison carcérale. Où en est-on aujourd'hui?
Nous félicitons beaucoup l'auditeur militaire de garnison par rapport à ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il est en train de désengorger la prison, à libérer les cas bénins. Et d'ici là, il y a déjà la grâce présidentielle que nous avons exécutée. Il y a certains des détenus qui ont bénéficié de cette grâce présidentielle. Et d'ici là, l'auditeur va passer pour exécuter ça avec le maire de la ville.
Monsieur le directeur Tsongo Makelele, nous vous disons merci.
Nous vous remercions également, monsieur le journaliste.
Le directeur de la prison centrale de Kangbaï de Beni s'entretenait avec Marc Marofimbo. C'est la fin de ce journal coordonné par Élisée Chikotachi Vueta. Supervision de Martin Sebujangwe à la mise en onde Dieudonné Nyangasa et Belinda Bosuma vous l'a présenté. Merci de votre attention.